enjeux de santé, 88.4.
Salut à tous et bienvenue pour un nouvel enjeu de santé. Aujourd'hui, j'ai rencontré pour vous Brigitte Rocher, directrice du planning familial de Rennes, qui nous présente donc le planning, son histoire et ses différentes missions, et nous renseignera un peu sur la contraception et la sexualité d'aujourd'hui. Je vous laisse l'écouter.
Donc voilà, je suis Brigitte Rocher, directrice du planning familial sur le département de l'Ille-et-Vilaine, où nous sommes implantés depuis de nombreuses années, puisqu'en fait, le planning familial, il a été créé en 1956, donc au départ sous le nom de Maternité Heureuse. Et donc la première initiative de cette association, c'était de faire en sorte qu'il y ait en France une loi, en particulier sur la contraception, puisqu'en fait, en 1956, il n'existait pas du tout de cette possibilité en France. Et donc l'initiative première, c'était cela. Et ensuite, le planning, il a rejoint des mouvements féministes, en particulier le MLAC, pour qu'il y ait aussi une autre loi, après la première loi sur la contraception qui a été votée en 67, pour qu'il y ait une loi en particulier sur l'IVG. Hein, donc le planning, il a été connu au départ pour ça, c'est-à-dire pour toute sa lutte autour de ces lois sur la contraception et l'IVG. Par ailleurs, on s'est implanté, on a des structures, en particulier sur le département, on a deux centres de planification et on travaille à la fois effectivement sur la planification familiale, mais aussi sur les problématiques de violence.
Vous avez parlé donc de féministes, cependant le planning familial, c'est un endroit mixte, enfin on peut y trouver aussi des hommes.
Le féminisme, ça ne veut pas dire qu'on est exclusivement réservé aux femmes, heureusement que non. En fait, on travaille nous beaucoup sur l'égalité entre les filles et les garçons et le planning, il est ouvert à tous. D'ailleurs, l'initiative du planning au départ, hein, c'était une association d'hommes et de femmes qui luttaient pour qu'il y ait en France une contraception. Donc le planning a toujours été associé à des hommes et ça reste une association féministe parce qu'en fait, on lutte contre toute forme de discrimination et donc c'est aussi pourquoi on est une association féministe. Mais ce n'est pas pour ça qu'on ferme la porte aux hommes, bien au contraire. Je pense qu'on vit avec les hommes, il faut travailler avec.
J'aimerais aussi aborder la question donc, de la contraception avec vous, notamment parce qu'aujourd'hui, on parle de plus en plus du stérilé qui serait devenu accessible aux plus jeunes femmes. Vous en pensez quoi et...
En fait, il faut savoir une chose, c'est que la position du planning, c'est le choix contraceptif. Et ça nous semble extrêmement fondamental, c'est-à-dire qu'une personne qui n'aura pas fait son choix, elle ne va pas bien suivre sa contraception. Donc si une personne, peu importe son âge, souhaite un stérilet, il est bien évident qu'on va lui proposer un stérilet. Donc ça, c'est la position du planning. Hein. C'est vraiment une position forte que nous avons depuis longtemps. Et notre position aussi, c'est faire en sorte que de proposer à une personne une contraception qui soit remboursée par la Sécurité sociale, parce qu'on se rend compte aussi que lorsqu'une contraception est chère, n'est pas remboursée, eh bien en particulier les jeunes ont du mal à suivre cette contraception. Et donc, pour qu'une contraception soit efficace, d'une part, il faut que ce soit choisi, d'autre part, il faut que son accès soit facile. Et quand on parle d'accès, c'est aussi l'accès financier.
C'est vrai que la pilule, pour certaines femmes, c'est assez cher et autres, alors que... Même de plus en plus, les capotes aussi sont très chères. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est aussi un peu une erreur ? Enfin, est-ce qu'il ne faudrait pas justement que la capote soit complètement en libre service ?
Alors, de toute façon, ce qu'il faut savoir, c'est que un, le préservatif, c'est important pour lutter contre les infections sexuellement transmissibles. Nous, on ne va pas en parler comme méthode de contraception déjà. Hein. Par contre, il faut savoir quand même que dans les centres de planification, le préservatif, il est gratuit. Donc, toutes les personnes qui passent ici au planning familial ou dans les centres de planif peuvent avoir accès au préservatif, qu'il soit masculin ou féminin. Donc ça, il faut le savoir, il faut le dire. C'est-à-dire que nous, on se rend compte d'une chose, c'est que Rennes, c'est une ville étudiante. Eh bien, on a finalement très peu d'étudiants à venir au planning, alors que ici les consultations sont ouvertes à tous. On pratique le tiers payant. Lorsqu'on est mineur, c'est gratuit. Et le tiers payant, c'est-à-dire qu'une consultation qui est à 23 euros, les jeunes vont payer 6,90 euros à partir de 18 ans. Et on a ici des médecins. Ils sont tous spécialisés sur la sexualité. On a des médecins gynécologues. Et donc, c'est important que tout le monde le sache. On pose des stérilets, on pose des implants, on est ouvert à toute forme de sollicitations, c'est-à-dire que le planning travaille sur la sexualité, ça fait partie de son métier. Et je pense que Radio Campus est là aussi pour dire aux jeunes et en particulier aux étudiants, si vous avez un problème pour trouver un médecin gynéco ou autre, eh bien, c'est possible de venir au planning. On est là pour ça.
Et donc, en effet, vous rencontrez des difficultés, entre guillemets, à avoir les étudiants à les amener jusqu'au planning. Est-ce que du coup, vous faites beaucoup d'événements afin de promouvoir, entre guillemets, un peu justement vos actions ?
En fait, le problème, c'est qu'ici, on croule sous le travail, en fait, hein, parce qu'on est vraiment très, très pris tous les jours. On travaille dans plusieurs endroits, c'est-à-dire que le planning est décentralisé aussi un petit peu, c'est-à-dire on travaille au 4 bis, on travaille à Saint-Jacques-de-la-Lande, on a un centre à Saint-Malo. Donc, en fait, on a quand même des permanences ici du lundi au vendredi, donc tous les jours. On travaille au centre d'orthogénie de l'hôpital Sud tous les jours. Et en fait, on est juste quand même que 8 équivalents temps plein. Donc, il faut qu'on puisse assurer quand même le service partout. Et c'est compliqué. Et alors, bien entendu, on fait des événements. Plutôt, les événements, c'est lors de, par exemple, manifestations autour du 8 mars, autour du 25 novembre, lors de la journée SIDA. On travaille aussi en lien avec beaucoup de partenaires, notamment lorsque c'est les quartiers d'été, les transmusicales, toutes les opérations d'Azibao, nos ambules, on fait partie de tout ça, de Prévenville. Mais sur la fac, par exemple, on a été amené à travailler avec des étudiants, notamment avec les étudiants qui nous avaient sollicités pour des interventions ponctuelles le soir ou autre. Nous, on est favorable à condition, on veut bien travailler avec les étudiants, mais il faut qu'il y ait un projet. C'est ça. Mais par contre, on fait quand même de la formation auprès des étudiants, tout à fait en début d'année, notamment en lien avec la LMDE. Et ce sont des formations relais auprès d'étudiants. Et donc ça, c'est une formation sur justement une connaissance sur l'ensemble des méthodes de contraception, sur les prises de risque, etc. Donc ça, on le fait chaque année au mois d'août-septembre.
Que pensez-vous en fait de la renommée, entre guillemets, du planning familial ? Enfin, vous savez un peu ce qu'on en pense ou pas ?
Je ne sais pas. Ça m'intéresse de savoir justement parce que nous, on est dedans. Donc en fait, moi, je connais le planning familial depuis longtemps. J'en suis la directrice depuis une dizaine d'années. Mais avant d'être directrice, j'étais une militante. J'ai connu le planning, j'étais toute jeune. Aujourd'hui, ça m'intéresse de savoir ce que les jeunes en pensent. Je ne sais pas.
Et vous, en tant que féministe, est-ce que justement, vous trouvez qu'il y a eu une réelle avancée importante grâce au planning familial ?
Un, c'est sûr, je suis féministe. Et deux, effectivement, je pense que le planning, il a fait avancer avancer énormément les choses et continue, parce qu'on est toujours hein, quand même un mouvement de lutte et on est quand même sur le terrain tous les jours. Donc je pense que ça, c'est sûr, le planning a fait avancer les choses avec d'autres. Hein. On ne travaille pas tout seul. Hein. Je pense que c'est important de citer les partenaires. On travaille toujours avec du partenariat, mais on a fait avancer les choses certainement et on continue parce qu'on se positionne beaucoup aujourd'hui sur tout ce qui concerne la lutte pour l'égalité entre les filles et les garçons, les problématiques de violence, les violences sexuelles en particulier. On est la seule structure dans le département à proposer une permanence d'accueil pour les jeunes victimes de violences sexuelles. Donc tous les mercredis après-midi, c'est gratuit. Et là, pour information, on ouvre un groupe de parole pour les jeunes, justement, victimes de violences sexuelles. Et ça, c'est aussi nouveau et on est les seuls dans le département à proposer ça. Donc c'est important aussi que les jeunes étudiants le sachent, puisque voilà, puisqu'on m'interpelle. Mais par contre, moi, ça m'intéresse que me disiez ce que les jeunes en pensent.
Eh bien, en tout cas, je ne sais pas, je ne vais pas parler au nom de tous les jeunes, mais je sais qu'on a aussi un petit peu une peur, en fait, du planning familial. Enfin, en tout cas, moi, je ne suis jamais entrée, voilà, j'avais toujours cette petite appréhension, puisque c'est vrai qu'on ne sait pas trop, en fait, où on va. Voilà.
Vous voyez, c'est important que vous nous disiez ça parce que en fait, je ne sais pas pourquoi la porte est ouverte, elle est colorée, c'est un rez-de-chaussée, c'est bien sûr anonyme et confidentiel ici. C'est la première chose, puisqu'en fait, il faut savoir que dans le cadre d'une loi, en particulier la loi pour les mineurs, hein, le planning est ouvert et la contraception est accessible aux mineurs qui ne peuvent pas en parler à la maison. Donc, bien entendu, la confidentialité est totale, l'anonymat aussi. Alors après, pourquoi on n'arrive pas à rentrer au planning, bah peut-être qu'on fait peur aux gens, j'en sais rien, mais c'est dommage, parce qu'en fait ici, il y a quand même des jeunes qui travaillent, il faut franchir la porte, parce qu'en plus, on a besoin de vous, parce que le planning aussi est en difficulté. Donc c'est important de le savoir, c'est important de savoir que nous, on ne vit que par des subventions qu'on a de plus en plus de mal à avoir, et c'est compliqué, donc je pense que plus on aura de sollicitations, mieux on se portera, on a besoin d'adhésion, on a besoin de jeunes pour prendre le relais aussi, parce que nous, le planning, on a des jeunes qui arrivent, mais on a aussi, on commence à vieillir. Donc, c'est important que ce relais soit pris et qu'on franchisse la porte. Donc, ça me semble fondamental. Alors, pourquoi on n'y arrive pas? Ça, je n'ai pas la réponse, mais je pense que c'est parce qu'on communique mal.
Et maintenant, on va faire une petite pause musicale avec Ella Fitzgerald, Black Coffee.
I'm feeling mighty lonesome. Haven't slept a wink. I walk the floor and watch the door. And in between I drink black coffee. Love's a hand-me-down brew. I'll never know a Sunday in this weekday room. To the shadows, 1 o'clock to 4, and Lord, how slow the moments go when all I do is pour black coffee. Since the blues caught my I'm hanging. All the morning
morning or the night. And in between it's nicotine and not much heart to fight. Black coffee, feeling low as the ground. It's driving me crazy this waiting for my baby to maybe come. Have gone to pieces. My hair is turning gray. All I do is drink black coffee since my man's gone away.
On reprend donc avec Brigitte Rocher, directrice du planning familial, à qui j'ai demandé comment le planning familial pourrait-il devenir plus important.
En fait, ce qu'il faut savoir déjà, c'est qu'à partir du moment où il y a une loi, la loi de 67 pour la contraception, il y a eu une loi, des décrets, et donc le Conseil général a les financements, on a des fonds dédiés qui sont versés par le Conseil général pour ouvrir des centres de planification. Donc en fait, nous, on a deux centres de planification finalement associatifs, hein, mais en fait, on ne peut fonctionner que si on a de l'argent, parce qu'on ne peut rien faire, nous on n'a rien à vendre, au contraire, nos services sont gratuits, sauf quand les personnes sont majeures, elles ont une petite participation, et en pratique le tiers payant, on fait en sorte aussi de pouvoir répondre aux personnes défavorisées, mais pas que ça. Aujourd'hui il y a de moins en moins de gynéco de ville, puisque la gynéco médicale il n'y en a plus. Eh bien, où elles ne sont pas remplacées, donc Donc en fait, on voit bien que on est très sollicité, notamment en gynécologie. On répond à la demande le plus possible, mais on veut bien répondre plus, on veut bien faire plus, mais on ne peut pas parce qu'on n'a pas les moyens. Alors après, moi j'ai pas la réponse. Si on nous donne les moyens, c'est bien, on peut se développer. Mais voilà, c'est ça qui manque, c'est le nerf de la guerre, les moyens.
Et vous pensez pas que, par exemple, si on créerait une annexe sur chaque université, justement, une sorte de petit planning familial, ça pourrait aider aussi, notamment, à toucher tous les étudiants?
Ben oui, pourquoi pas, mais pour ça, on ne peut pas le faire tout seul. C'est toujours pareil, une annexe. Dans les universités, il y a un service de médecine, hein, de toute façon. Mais je pense aussi, ce qu'il faut se dire aussi, c'est aussi intéressant que des jeunes sortent un peu d'université. Il faut savoir que, aujourd'hui, à Rennes, il y a les bus, le métro, c'est facile d'arriver au planning familial. Et moi, je pense aussi que les étudiants, ils se déplacent en ville, ils bougent, je pense que c'est aussi important. Et d'avoir un endroit un petit peu, justement, excentré d'une université, pourquoi pas? Je pense que c'est intéressant aussi de pouvoir d'avoir cet accès médical en dehors d'une université. Tout ne se passe pas à l'université. Je pense que les étudiants, ils doivent s'ouvrir à autre chose. La preuve, c'est qu'on va bien boire un coup, je ne sais pas où, moi, dans les cafés, dans le centre-ville, Place Sainte-Anne, par exemple. Eh bien, le métro et Place Sainte-Anne, vous pouvez descendre jusqu'ici, c'est tout près.
Maintenant, j'aimerais parler un petit peu avec vous du mariage gay, quelque chose donc qui est beaucoup d'actualité. J'aimerais savoir, du coup, est-ce que vous faites quelque chose si, par exemple, un couple d'homosexuels vient ici? Est-ce que vous faites justement, je sais pas, une cellule pour en parler? Enfin, je sais pas. Est-ce que vous avez une action par rapport à ça?
Alors, de toute façon, il faut se dire une chose, c'est que le planning s'est ouvert à tous. Mais on voit aussi qu'on est quand même beaucoup interrogé, notamment par rapport au groupe qu'on appelle LGBT. Hein, et en fait, ça, c'est aussi un positionnement de la Confédération nationale, puisqu'on appartient à une Confédération nationale. Il y a eu un congrès récemment où, effectivement, l'accueil des personnes gays, lesbiennes, etc., c'est important de pouvoir prendre un peu de temps temps justement avec ces personnes-là d'une façon différente, peut-être qu'on le faisait précédemment. C'est-à-dire que pour moi, lorsque la question a été posée un jour, je me suis dit, mais le planning, c'est ouvert à tous, et donc aux personnes, comme c'est dans notre charte, hein, c'est dans nos statuts, le planning lutte contre toutes les discriminations, accueille tout le monde, donc pourquoi pas, je ne sais même pas pourquoi je dis pourquoi pas, toutes les personnes. Et donc, par contre, on voit bien qu'il y a des questionnements particuliers. Et donc, dans le cadre notamment du 8 mars, le thème du 8 mars cette année en lien avec la ville de Rennes, c'est corps et identité. Et donc, on a proposé d'ouvrir une réunion, de proposer une réunion justement sur ce thème des gays, lesbiennes, etc., pour en parler, pour parler de sexualité et de toutes les questions qui tournent autour de ce sujet. Voilà. Donc, ce sont des préoccupations, c'est de l'actualité, et je pense que le planning doit se positionner par rapport à cela, effectivement.
Aujourd'hui, la sexualité, elle est devenue un peu plus banale, surtout au niveau des jeunes, je pense. Et justement, vous avez dû voir un petit peu l'évolution de quelque chose en fait qui était très tabou avant et qui devient un peu moins, mais justement je sais pas si on va vers quelque chose de mieux.
Moi je ce que je peux dire, hein, c'est que déjà ça bouge pas tant que ça, hein, puisque la génération des années, enfin, il y a quand même eu des avancées, puisqu'en fait, le fait d'avoir une loi sur la contraception en France a permis quand même de libérer les couples, les femmes en particulier. Et ça, c'est une grande révolution. Ça, c'est une première chose. Aujourd'hui, ce qu'on peut voir, c'est qu'en termes de sexualité, la moyenne d'âge, hein, par rapport aux années 80 ou 70, ça n'a pas bougé. L'entrée dans moyenne, hein, dans la sexualité, on est toujours autour de 16 ans, 17 ans. Ça n'a pas bougé. Je dirais presque que, aujourd'hui, on voit beaucoup plus, et même là, avec toute l'actualité, je sais pas, il y a même des réticences par rapport, pour nous, par exemple, le fait de pouvoir avoir accès à la contraception comme la pilule, c'était une vraie révolution, c'était une vraie liberté pour les femmes, et donc aujourd'hui, on pourrait dire, sale temps pour la pilule, quoi, parce que, voilà, c'est les radios, on est sur de la dangerosité, etc., donc je pense qu'il faut faire attention à ça. Je pense que la contraception aujourd'hui, c'est quelque chose de fondamental, qui permet d'être libre et d'avoir une sexualité épanouie. Ça permet d'éviter aussi une interruption de grossesse et ça permet justement d'espacer les naissances. C'est ça, la contraception. Hein. Donc, les tabous, je crois qu'ils sont réels. Moi, je trouve que justement, en 2013, on vient de démarrer 2013, donc on peut parler pour 2012. Moi, je remarque quand même une chose, c'est qu'il y a toujours la même appréhension des jeunes, surtout que les parents ne soient pas au courant. Quand les jeunes filles sont enceintes, surtout que mes parents ne soient pas au courant, sinon ils vont me tuer. Donc on est quand même en 2012. On peut se dire que la contraception, ça date quand même. Hein, et nous, on a été quand même très, très partie prenante de ces lois. On a été très, très investis par rapport à ça. Et puis, dans les familles, on se rend compte que c'est quand même toujours tabou. Et que, justement, c'est pas, la sexualité n'est pas si épanouie que ça. Moi, je ne trouve pas. Alors, peut-être que dans la société actuelle, on va parler... Vous abordiez tout à l'heure l'homosexualité. Donc, c'est vrai que probablement, c'est un sujet, on en parle davantage. Hein. Donc, ça fait partie des faits de société. Hein. Aujourd'hui, je pense qu'on parle sans doute davantage de l'homosexualité qu'hier. Mais en termes de sexualité, je ne suis pas sûre qu'on soit aussi épanoui que ça. Je ne suis pas sûre. Enfin, en tout cas, dans ce qu'on peut voir, c'est pas gagné.
Vous parlez aussi donc de la dangerosité aussi de la pilule. C'est vrai qu'on entend de plus en plus comme quoi que ça déréglerait, qu'au final, ça ferait plus trop son travail.
Moi, je crois qu'il faut se méfier beaucoup de tout ce qu'on entend. C'est-à-dire qu'en fait, au planning, en tout cas, nous, on a quand même un protocole. C'est-à-dire qu'une personne qui vient pour une contraception, on sera déjà dans une posture d'écoute. On va l'écouter, on va voir ce qu'elle souhaite. C'est pour ça qu'on est sur un choix contraceptif. Et ça, c'est important de l'entendre. Et ensuite, si la personne souhaite, par exemple, une pilule, eh bien, notre première intention, nous, ce sera forcément une pilule de deuxième génération qui est remboursée. Pourquoi ? parce que tout à l'heure j'en ai parlé. Un, la plupart du temps, elle est plutôt bien acceptée. Deuxièmement, elle est remboursée. Donc si la personne elle est mineure, donc, de toute façon, elle ne va pas payer sa contraception. Mais le jour où elle va avoir 18 ans, si la pilule lui convient bien, eh bien cette même pilule, elle va pouvoir la continuer et elle sera remboursée et elle va pouvoir la continuer. Parce que nous, on se rend compte que comme on travaille à l'hôpital tous les jours, notamment au centre IVG, on se rend compte d'une chose, c'est que la délivrance des pilules de troisième génération, eh bien elles ont quoi comme effet? C'est que, je ne parle pas de dangerosité parce que moi, je ne me positionne pas par rapport à ça, je ne suis pas spécialiste et experte là-dessus. Je pense qu'à partir du moment où il y a un médicament qui a eu une autorisation de mise sur le marché, il y a une autorisation de mise sur le marché, donc on n'est pas sur de la dangerosité. Par contre, il y a des choses qu'il faut faire quand on est médecin, c'est-à-dire qu'il faut faire des examens. Il y a un bilan sanguin, il y a un questionnaire sur les antécédents familiaux, et ensuite, il y a un examen clinique. Et donc ça, c'est impératif et c'est ce que nous faisons. Par contre, nous, les troisième génération, ce qu'on peut voir, c'est que les jeunes filles qui atteignent l'âge majeur et qui ont des pilules de troisième génération, par exemple, eh bien, très souvent, ce qui se passe, c'est qu'elles arrêtent leurs pilules parce qu'elles coûtent trop cher. Et donc, elles arrêtent, pof, pof, et elles se retrouvent enceintes. Donc, c'est un problème. Par contre, parfois, une personne a pu utiliser des pilules de deuxième génération et ça ne leur convient pas. La pilule de troisième génération convient bien. Eh bien, pourquoi ne pas continuer? Si la personne sait que c'est ça qui lui convient et qu'elle veut bien faire un effort financier, qu'on a fait tout ce qu'il fallait pour écarter les problèmes de santé, bon ben voilà, le débat est clos. Hein. Je pense que c'est important de faire confiance surtout et de faire confiance. Enfin, moi, je crois que si vous venez au planning, en tout cas, vous aurez toutes les explications. Ça, c'est important et vous aurez un examen clinique.
Au risque d'avoir l'air bête, je ne sais pas ce qu'est une pilule de deuxième génération ou de troisième. Enfin, la différence.
C'est des questions de molécules, en fait. Hein. Donc, en fait, au départ, lorsqu'il y a eu, les premières générations de pilules qui étaient très fortement dosées, après, ils ont fait une deuxième génération de pilules avec des dosages en œstrogène et progestérone différents. Et ensuite, il y a eu les pilules de troisième génération avec d'autres dosages. Donc, après, on ne va pas rentrer dans les dosages de molécules. Ça, ce sont des nouveautés, des recherches qui sont faites cliniques et qui permettent effectivement à certaines personnes d'avoir effectivement accès à ces méthodes de contraception là qui vont convenir à certaines et pas à d'autres, hein. Et c'est pour ça que je dis parfois même une pilule de première génération, elle va mieux convenir, elle sera plus forte, mais elle va mieux convenir qu'une autre. Bon, bref, donc moi je ne suis pas là pour dire il faut ci, ça ou ça. Je pense que c'est un examen clinique qui permet de... Les jeunes, ils s'en fichent finalement que ce soit première, deuxième, troisième génération. Ce qu'on veut, c'est avoir une contraception et éviter d'être enceinte. C'est ça, je crois. Donc, il faut faire confiance à son médecin. Mais par contre, je pense qu'il y a eu un petit peu de laisser aller. Là, on a pensé que c'était sans doute... Enfin, moi, je pense que la première question, c'est se dire, elle coûte combien la pilule? Et est-ce qu'elle convient déjà?
Le planning familial, alors, c'est quoi les résolutions pour l'année 2013?
Ce n'est pas des résolutions, on a plein de travail à faire. C'est-à-dire que, déjà, nous, là, première chose, pour travailler, il faut qu'on puisse avoir des financements. Donc, on est en recherche de financement, il faut qu'on nous aide. Et donc, on voudrait relancer les adhésions, relancer les dons aussi, parce qu'on oublie que c'est une association et qu'on a besoin pour vivre et pour travailler, on a besoin d'être aidé. Donc ça, c'est important de savoir ça. Ensuite, on a plein de projets, c'est-à-dire justement faire en sorte que l'accès à la contraception soit possible. Donc ça, c'est une première lutte. Deuxième chose, que décentraliser les actions, notamment en milieu rural, parce que l'accès, il n'est pas facile pour les jeunes. Ensuite, travailler sur les notions d'égalité entre les filles et les garçons, fondamental. Donc ça, on y travaille aussi. Travailler sur les problématiques de violence, ça, c'est aussi important. Donc ça, c'est les grands chantiers que nous avons à mener sur l'année 2013. Travailler en partenariat, c'est aussi de se dire qu'on n'est pas tout seul, mais on est aussi en capacité de travailler avec d'autres. Et c'est bien aussi de travailler avec d'autres qui nous apportent aussi des choses. Et puis, peut-être aller davantage vers les jeunes, vers la fac. Et donc, que les jeunes viennent chez nous, on a besoin de vous. Voilà.
Eh bien, voilà, Enjeux de santé, c'est déjà fini. J'espère que ça vous aura aidé à savoir un petit peu ce qu'était le planning familial et peut-être vous avoir renseigné sur la contraception. Enfin, j'espère que je vous retrouverai pour le prochain Enjeu de Santé. En attendant, vous pouvez tous les réécouter sur radiocampusrennes.fr. Salut!